Bonsoir Barthabas.
Bonsoir.
Nous sommes avec vous pour parler de votre livre « Les cognes-trottoirs » sorti aux éditions Gallimard. Dans ce livre, vous faites beaucoup référence à la littérature, entre autres, et on va en reparler. Je voudrais savoir dans quelle situation les mots vous manquent.
Oula. Tout de suite, là, on va déjà à la question de la grande librairie directe. Bah les mots, moi je dirais que quand même en presque plus de 40 ans de carrière, j'ai développé un langage qui était sans mots, puisqu'avec les chevaux, faut s'inventer un vocabulaire qui est silencieux, puisque on communique avec le corps, voire plus tard ensuite avec la pensée. Mais donc les mots, je les utilisais assez peu en fait, hein, pendant très longtemps. Et je mettais même un point d'honneur dans mes spectacles à toujours mettre, quand il devait y avoir de la parole, c'était de la parole inintelligible. On s'était même inventé un langage qui s'appelait Skovac, qui n'existe pas, et dont on parlait comme ça, ne serait-ce que pour être un peu universel dans notre travail, quoi. Donc il n'y avait pas besoin de traduction des langues. Mais c'est surtout à base de l'image qui était produite par les chevaux et mon travail, pouvait se passer de mots intelligibles, on va dire. Donc ça a été un... Me mettre à l'écriture, ça va faire maintenant... 6 ans, je crois, ou 7 ans, non, je sais plus. Premier livre d'un cheval, l'autre, c'était il y a 6 ans ou 7 ans. C'était, je dirais pas un combat, mais parce que c'est venu naturellement, c'était une envie, donc, mais c'était un vrai travail, quoi. Et j'ai dû me confronter à l'écriture, surtout que je fais beaucoup de fautes d'orthographe en plus. Je suis limite dyslexique au départ, donc ça a été un vrai travail, quoi.
Parce que dans ce livre, vous faites référence au fait, à un moment donné, il y a une scène très émouvante dans laquelle un de vos personnages dit « Bah là, on a atteint la limite des mots », et vous parlez de l'émerveillement.
Oui.
À cet endroit-là, vous parlez du manque de vocabulaire pour raconter la grâce.
Oui, bah, c'est-à-dire qu'il y a un moment, comment dire, si on prend ça à l'envers, dans le spectacle vivant, il y a des moments, donc là, en l'occurrence, vous faites référence à... Voilà, un spectacle qui se passe dans la rue où, oui, d'un coup les spectateurs n'ont plus de mots pour... D'ailleurs, c'est, voilà, on ne pourrait pas le décrire parce que l'émotion était si forte, et je la compare avec effectivement l'émotion d'un lecteur. Et c'est vrai, dans le spectacle vivant, il y a quelque chose qui est de l'ordre du bien sûr de l'éphémère, mais qui ne laisse une trace que dans votre mémoire, quoi. C'est-à-dire qu'un livre, on peut toujours le relire. D'ailleurs, toutes les œuvres majeures, que ce soit la sculpture, la peinture, la littérature, on peut les revisiter à différentes périodes de sa vie. D'ailleurs, c'est là qu'on s'aperçoit que nous, on a évolué. C'est-à-dire notre regard sur la même œuvre, notre regard a changé. Une fois, ça peut vous arriver de lire un livre que vous n'aviez pas lu depuis 20 ans et vous le relisez, vous dites « Ah, c'était ça », ou au contraire, vous y voyez des choses que... Donc, il y a toujours... Alors que dans le spectacle vivant, il y a cette notion... qui, moi, m'est très cher, parce qu'à Zingaro, en plus, mes spectacles ne s'écrivent pas. Hein. C'est-à-dire que je ne peux pas reprendre, je n'ai pas de répertoire. Ils ont été écrits pour des chevaux et des gens très particuliers, à un moment précis de leur histoire, et ils n'existent plus, souvent. Donc je pourrais même pas les... Même si je voulais, je ne pourrais pas recréer un spectacle que j'ai fait il y a 15 ans, 20 ans ou 30 ans, quoi. Et donc, il y a cette notion de... Une fois qu'un spectacle est terminé, plus personne ne le verra. Bon, je les filme, d'accord, il y a la trace filmée, mais enfin, ça n'a pas la même valeur, quoi. Et donc, tu n'existes que dans la mémoire des gens qui t'ont vu. Et ça, c'est assez intéressant parce que, pareil, il y a une fluctuante de cette mémoire, mais elle est complètement, elle disparaît, quoi. C'est pas, voilà, tu n'as plus de recours, donc tu ne peux pas. Ce que tu vas raconter, c'est de l'ordre d'une émotion que tu as vécue, mais avec le temps, comment s'en souvenir, quoi. C'est pas évident, quoi. Enfin, c'est même très particulier. Enfin, moi, quand j'ai écrit Un geste vers le bas, qui comptait quand même étaler sur 10 ans, et ça s'est passé il y a 20 ans. Mes nuits avec Pina Bausch pour préparer un spectacle, je lui avais fait rencontrer un cheval pour préparer un spectacle qui n'a jamais eu lieu. Ça a été une vraie, et je prenais pas de notes, donc ça a été une vraie réflexion pour en revenir sur des événements qui en plus se passaient toutes les nuits un peu répétitifs. C'est des rencontres comme ça qui se sont passées il y a 20 ans et qui ont duré 10 ans occasionnellement, évidemment pas 10 ans tous les jours. Et ça m'a fait réfléchir qu'en fait, pour bien se souvenir, il faut beaucoup de temps pour bien se souvenir. C'est-à-dire que le vrai souvenir n'a une valeur que quand il est dépouillé de son j'allais dire de ses émotions. C'est-à-dire que tu te souviens de quelque chose qui t'a mis en colère, ou tu te souviens au contraire de quelque chose qui t'a passionné, mais 20 ans, 30 ans après, ce souvenir-là, qu'est-ce qu'il est maintenant? C'est-à-dire, ce qui te reste dans ton souvenir, c'est ce qui reste d'abord, parce qu'il y a quelque chose que tu oublies. Donc, ce qui reste, c'est quelque chose qui, mais que tu ne vas pas définir de la même manière. C'est-à-dire que tu n'as plus l'émotion qui est liée. Je ne sais pas si je suis bien clair.
Si, si.
Quand, par exemple, pour finir cette anecdote sur cette histoire avec Pina Bausch, ce spectacle, donc le cheval est mort après 10 ans. Donc, le spectacle n'a pas eu lieu. Et quelques années après, donc on continue à se voir et on était très amis, mais il n'y avait plus ce travail. Quoi. Mm. Et un jour, et c'est ce que je raconte vers la fin du livre, d'ailleurs. Je jouais au Festival d'Avignon avec Lungta et on m'avait offert une carte blanche à la cour d'honneur pour faire ce que je voulais. Ça se faisait à l'époque, donc c'est pas des choses très élaborées parce que tu pouvais pas répéter. C'était une nuit juste, donc tu invitais des gens souvent. Enfin bon, et avec Pina, elle voulait danser, faire un petit solo sur la rencontre avec ce cheval, mais sans le cheval puisqu'il n'était plus là. Et c'était devenu complètement secret, quoi. C'est-à-dire qu'elle voulait pas, juste titre, que personne le sache et même pas soit marqué dans un programme ni quoi que ce soit, que les spectateurs la découvrent ou pas d'ailleurs, parce qu'elle était très connue comme chorégraphe, mais pas forcément comme danseuse. Et donc il y avait que moi qui le savais, quoi. Et il se trouve que donc ça, il allait y avoir une petite trace de ce souvenir, quoi, de ce travail, on va dire. Et il se trouve qu'on est tombé l'année où le festival a été interrompu avec la grève des intermittents.
Décidément.
Donc personne, même le directeur du festival, n'était pas au courant. Hein. Personne n'était au courant qu'il allait y avoir ça, sauf moi et elle. Enfin, il n'y avait pas que elle, il y avait d'autres gens. Et donc, je peux vous dire que j'étais très, très en colère, parce que avec Zingaro, on jouait aussi. Ouais. Mais enfin, bon, on faisait le tour du monde pendant 3 ans avec le spectacle, ça s'est rejoué, c'est pas un problème. Mais là, avec ce moment-là, voilà. Et donc, j'étais très ému et très en colère. Donc, ce souvenir-là, pour moi, c'était lié vraiment à plus qu'à... J'étais dépité, quoi. Et ben, 20 ans après, en écrivant le livre, j'ai trouvé que c'était la plus belle chose qui pouvait arriver. C'est-à-dire que même ça, ça n'a pas été possible. Donc, de ce travail, il ne reste que le souvenir, il ne reste que l'écrit, que ce livre. Parce que, imaginez, ça aurait eu lieu. Vous auriez lu le livre et vous diriez, ah oui, j'étais à Avignon cette année-là. Ouais, il y a eu un passage. Ouais, c'était pas mal, mais enfin bon, rien de... Mais vous cassez le... Alors que là, on reste complètement dans... Voilà, ça n'a jamais pu avoir lieu. Et même l'évoquer sur scène n'a pas été possible. Juste à travers l'écrit. Et ça, je trouve ça assez beau, quoi. Je ne sais pas si ça répond à la question, là.
Si, si.
Je suis parti en vrille, un peu. Hein.
Ça répond très bien à ma question. Mais justement, dans ce livre, en fait, on se pose la question aussi de savoir ce qui fait appel à votre mémoire, à vos souvenirs et à la fiction. Parce que, déjà, c'est assez rigolo, vous nous mettez très peu d'indices sur l'époque pendant laquelle se passe ce livre. Alors, mais quand même, à un moment donné, vous parlez d'une pièce de 5 francs.
Oui, bah, à l'époque, c'est les années, c'est on va dire fin des années 70, les années 80, quoi. Hein, c'est-à-dire, d'abord parce que c'est vrai, c'est une époque que j'ai connue. Moi, j'étais très très jeune, mais j'ai commencé dans la rue. Hein, donc, il y a un côté, c'est un peu les origines, même si c'est un roman, c'est quand même inspiré de plein de personnages que j'ai plus qui m'ont marqué, qui m'ont un peu fasciné. Que j'ai fait des mélanges, j'ai créé des personnages à partir de gens que j'avais rencontrés. Je sais pas si vous connaissez, c'était le Palais des Merveilles. Enfin, bon, c'est tout un courant de c'était un moment assez particulier, hein, d'ailleurs. C'est une époque, ça fait référence à une époque assez courte qui a duré 5-6 ans, pas plus. Où tout d'un coup, les artistes, les gens de théâtre ont eu envie de descendre dans la rue en réaction à dire tout le théâtre est toujours dans les murs, etc. Il faut descendre dans la rue. Vous, à Sigma Bordeaux, par exemple, parce que vous avez connu ça, parce que vous avez eu la chance d'avoir un directeur absolument génial qui était à l'affût, Roger Lafosse, qui était à l'affût justement de ce genre de truc, qui était c'est le début du Magic Circus, tout ça. Et c'est des gens qui disaient, tiens, il faut aller à la rencontre du public. Parce que le théâtre était vraiment quelque chose de très codifié, de très un peu obtus, un peu voilà. Et donc il a commencé à avoir des choses comme ça dans la rue, des compagnies qui commençaient à jouer dans la rue. Et ce qui m'a fasciné, donc moi je l'ai fait aussi un peu, ça, on faisait des trucs. Et ce qui m'a fasciné dans cette époque-là, c'est que quand tu racontes ça à des jeunes, ils hallucinent. Tu dis, t'as commencé quoi? J'ai commencé dans la rue. T'étais payé? Non, je t'ai pas payé. C'est les gens qui payaient, le public. Ah bon? Comment? Ben, il mettait ou il mettait pas, quoi, tu vois, de chapeau. Et cette notion-là, pour moi, elle m'a beaucoup appris et m'a beaucoup... je pense qu'elle m'a façonné un petit peu. C'est-à-dire que d'abord, dans la rue, les spectateurs sont chez eux, parce que la rue est à tout le monde. Donc, c'est toi qui viens chez eux, quelque part, quoi. Tu te mets place des quinconces, tu commences à faire un truc. Bon. Et surtout, les gens sont debout. Le public est debout. Ça a l'air de rien, mais ça change tout. Et d'ailleurs, ça revient au début du théâtre. Hein. Faut savoir que le théâtre de Comédia dell'Arte, le théâtre élisabétain, même le théâtre de Tréteaux, l'époque de Molière, les trois quarts du public étaient debout. Hein. Un théâtre élisabétain, la trois quarts du public est debout, et puis il y a quelques loges pour vraiment les nobles et les grandes figures qui viennent comme ça. Mais sinon, et quand le public est debout, ça influe aussi sur le contenu et la manière dont tu écris le théâtre. Parce que debout, tu peux pas te permettre de faire des longs trucs qui demandent une attention. Il faut tout le temps, donc ça joue dans le rythme de l'écriture, il faut tout le temps tenir le spectateur en haleine, en fait. Peter Brook disait très bien, il disait le théâtre s'arrête quand le spectateur ne peut plus croiser le regard de l'acteur. C'est-à-dire les grandes salles à 2000, 3000 places, et plus, ça devient presque plus du théâtre, quoi. Mmh. Ça devient de la démonstration, ça devient du show, tout ce que tu appelles ça comme tu veux. Tu perds la relation les yeux dans les yeux avec le public. Et la rue, c'était ça, quoi. C'est-à-dire que les gens étaient tout autour. Tu pouvais les... Et ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup appris, quoi. Et puis la notion que, voilà, ils s'en vont. Si tu ne les retiens pas, ben, ils s'en vont, même s'ils trouvent que ce que tu fais, c'est marrant, tu vois. Donc il faut savoir les tenir en haleine, les obliger. Tu es obligé de créer une tension, quoi. Ce qui, moi, a beaucoup servi dans mes mises en scène, dans la structure des spectacles, j'ai toujours, c'est pour moi la définition du théâtre populaire, c'est que le théâtre populaire, c'est pas faire de la merde pour plaire à tout le monde, ou au plus grand nombre, c'est faire ce que tu as envie de faire, mais t'arranger pour que tout le monde puisse rentrer dans ton histoire. Et que chacun y rentrera par sa porte ou par sa fenêtre, selon sa culture, son âge, son vécu, sa sensibilité. C'est-à-dire, tout le monde ne verra pas la même chose dans les spectacles. C'est pour ça que vous n'avez pas d'histoire, d'ailleurs. C'est des suites de tableaux, et c'est le spectateur qui se fait sa propre histoire, toujours. Et ça, c'est pour moi, ça vient de la rue, pour moi, ça, le côté... Et donc, c'était assez... Et puis, alors, ce qui est intéressant, là, c'est un peu sociologiquement, c'est que le milieu... J'en parle un peu, d'ailleurs, vers la fin du roman, je le mélange dans l'histoire, je règle un peu mes comptes avec le milieu de la culture. C'est que la culture, mais en fait l'argent, qu'on pourrait dire, a voulu récupérer ça. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte, on s'est dit, mais en fait, c'est pas mal, ces artistes de rue, ça crée des animations dans la rue, les commerces marchent mieux, il y a du monde qui s'arrête, etc. Et très vite, il y a eu ces festivals de théâtre de rue. Il y en a encore, d'ailleurs. Alors, en voulant les aider, ça partait d'une bonne intention, dire, tiens, moi, je vais prendre les saltimbanques, puis on va les payer, ils vont venir. Sauf que un acteur que tu payes pour venir faire quelque chose devant ton magasin ou dans la rue à tel endroit ou à la sortie d'une usine, ça devient une animation. Le rapport, il n'y a plus cette tension avec le public, parce que de toute façon, tu as été payé pour venir faire le clown, quoi, en gros. Quoi. Alors, ça a donné autre chose. Ça a donné un théâtre d'intervention qui était plus provocateur, qui était plus plastique. Je ne sais pas si vous avez connu des compagnies comme Illutopie ou des choses comme ça. C'est des gens qui faisaient des interventions dans la rue, qui étaient d'ailleurs assez géniales. Hein. Tu sortais de chez toi un matin et tu voyais un bus encastré au premier étage, quoi. Tu disais, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et pendant la nuit, ils avaient installé, toi. Mais ça devient de... Voilà, alors l'exemple le plus caractéristique de ça, c'est évidemment... j'ai oublié leur nom, les géants.
De Nantes.
Le Royal de Luxe.
De Nantes.
C'est bien. On voit que vous suivez. C'est bien. Ouais. Le Royal de Luxe qui a commencé dans la rue avec des petites formes, hein, faut jamais l'oublier. Et c'est devenu. Alors, ça, évidemment, il y a plus rapport au public. C'est un autre rapport au public.
Ouais,
et donc, tu es financé par la ville, voire même la région. C'est un autre rapport. Tu n'as plus ce rapport direct avec le spectateur. Quoi, les yeux dans les... Et c'est dommage que donc ça a tué un peu le... En voulant les aider, on a tué un peu ce. Et puis, alors, ce qui était intéressant, c'est que c'était faux public, c'était interdit. Hein, dans les années dans à Paris et dans les années
d'ailleurs,
bien sûr, ça, j'en raconte beaucoup. C'est que c'était
avec la police qui débarque,
bien sûr. C'est que dès qu'il y avait un attroupement de 50-60 personnes, commence à y avoir un peu de tumulte. Il suffisait qu'il y ait un voisin qui appelle, oh, ils font du bruit en dessous de chez moi, etc. Les flics débarquaient, tu avais le droit au panier à salade. Bon, c'était pas méchant. Tu au pire, tu t'en tournais avec une amende pour comment on appelait ça, trouble à l'ordre public. Enfin, voilà. En général, il gardait 2 heures, il te relâchait, quoi. Mais en fait, t'avais l'air con, tout maquillé, habillé dans le commissariat avec tous les mecs qui passaient en te regardant comme ça. Et donc, c'est assez. Il y avait toujours une confrontation comme ça. Il y avait un jeu de chez la souris. Enfin, ce que je raconte, ma compagnie, enfin, la compagnie qui est décrite, les balades du temps, voilà, l'amiral qui est un peu le chef du truc, ça arrange toujours pour être un peu éphémère. Il vient jamais à la même heure, au même endroit. Et c'était ça, je l'ai un peu connu, quoi. C'était et puis le public qui était, quand tu regardes les vieilles photos, c'est impressionnant, quoi. C'est un public vraiment très populaire. Il peut y avoir des gens très âgés avec des enfants, et pourtant il peut être 10 heures du soir, hein, avec des gens souvent très pauvres mais bien habillés, un peu comme en Espagne, quand on est dans les villages tard le soir, tu vois des familles qui sortent. Tu sors, même si tu n'as pas d'argent, tu sors, tu t'habilles. enfin minimum, quoi, t'es propre, tu vois. Et ça, c'est un public qui est assez, c'est, quand tu regardes les photos, c'est impressionnant. Beaucoup des Algériens à l'époque étaient exploités dans toute la banlieue parisienne, dans les bidonvilles et tout, et donc ils avaient pas très peu d'argent, ils avaient pas de quoi se payer même le cinéma souvent, et les spectacles dans la rue, c'était gratuit pour eux, c'était une manière d'avoir quelque chose, quoi. Et ça se mélangeait à ce public, un peu une intelligentsia, parce qu'évidemment, on jouait, tu pouvais jouer devant le De Mago à Saint-Germain, machin. Donc là, tu avais toujours, comment elle s'appelle,
le préfet?
Non, comment elle s'appelle, Simone. Voilà. et puis l'autre, voilà. Et c'est souvent, tu les voyais dans le public, tu vois. Et aussi, tu avais aussi notre ami le poète. Là.
Simone, c'est comme ça?
Simone, c'est le turban, et l'autre, c'est les...
Voilà. Ah oui, d'accord.
On voit qu'il y en a qui suivent, c'est bien.
Waouh.
Voilà. Et puis, t'as les gens jeunais, par exemple, moi, souvent, ça, tu vois, ils aimaient bien traîner, dans, tu vois, comme ça, la nuit. Enfin, donc, il y avait ce mélange assez hétéroclite du public, c'était très intéressant, quoi. Il y avait... Ah, voilà, moi, je l'ai un peu connu, je l'ai un peu vu, ce... Moi, j'avais une quinzaine d'années, hein, j'ai 15, 16 ans, 17 ans, et c'était assez marrant, parce que je... Donc, ça, j'ai bien aimé remettre cette... Donc, c'est quand même assez... Pour moi, c'est quand même assez... Quand vous dites dans le temps, c'est quand même assez précis. Hein.
Ah oui, oui.
C'est une époque assez précise. Et c'est une époque, c'est vrai qu'on explique assez peu. C'est-à-dire que souvent, ce qu'on retient des années 80, c'est le bain-douche, c'est le Paris un peu bling-bling, voilà. Alors qu'il y avait quand même un Paris... Il ne faut pas oublier qu'à cette époque-là, mm-hmm. je dis souvent, dans le Marais, par exemple, un appartement sur deux n'avait pas l'eau courante. Les toilettes étaient dehors, dans les paliers, dans les inter... C'est-à-dire que à chaque, les toilettes servaient à deux étages d'immeubles, deux étages d'appartements, quoi. À chaque fois. Et ça, c'est quelque chose qui a duré pendant... Et on ne se rend pas compte. On se dit, on parle des années 80, on se dit, quand même, ce n'est pas le Moyen-Âge, quoi. Tu vois, ce n'est pas si loin que ça. Et c'était un pari... à l'époque, c'était un pari un peu âpre, quoi. Mais ça, j'ai voulu un peu montrer ça. La vie était un peu plus âpre, un peu plus... Et puis, surtout, c'est le Paris, c'est la deuxième grande transformation de Paris, quoi. Moi, m'a beaucoup intéressé. T'as eu la première, c'est Haussmann, et la deuxième, ça a été le point de départ. Ça a été le départ de Rungis à Rungis des pavillons Baltard, quoi, des Halles de Paris. Quand les Halles de Paris ont été désertées, ça a été le début de la fin, quoi, de toute la province qui venait à Paris, enfin, la province qui travaillait, je veux dire, hein, qui amenait ses légumes, etc. Donc, tout ça, c'est parti d'abord un peu à la Villette, puis après, bon, ça a disparu de Paris, et puis tous les quartiers, Belleville, tout ça, qui ont été rasés, reconstruits en petits immeubles, enfin, un petit HLM. Donc, ça a été la fin d'un... C'est une transformation dans Paris aussi. Et ça, je trouvais que c'était intéressant de décrire ça, parce que, voilà, mes personnages aussi sont des... C'est des... Enfin, bon, voilà, je me suis perdu... Je suis parti, un peu pour m'arrêter. Alors, je suis le cheval fou là.
Il faut quand même.
Pose une petite question et je pars au galop.
C'est très bien. Il faut sacrément aimer les gens alors pour faire ça, pour avoir envie d'être dehors.
Bien sûr.
Puis parce que je dis ça. Alors
c'est le sujet de Zingaro. J'ai beaucoup parlé de mes chevaux.
Voilà.
Dans un cheval, bon, je vois la question derrière évidemment.
Mais non, mais c'est parce que
dans un cheval l'autre, j'ai parlé de ma relation. Mais évidemment, quand tu fais des compagnies, il y a les chevaux, évidemment, c'est ton amour des chevaux, mais aussi l'amour des gens, c'est travailler, c'est faire tribu. Voilà, et moi, mes personnages, c'est ça.
C'est
des gens un peu cabossés de la vie, qui sont tous des marginaux, un peu, et qui font tribu, quoi. Et dans cette tribu, il y a une générosité, une acceptation de l'autre dans toute sa différence. Voilà, parce que surtout à l'époque, quoi, il y a un des personnages, par exemple, qui est une magicienne, enfin, qui est un travesti. Mais là, je parle à travesti dans les années 80, quoi. C'est-à-dire que si tu étais déclaré homosexuel, déjà, tu allais en tôle.
Ouais, ouais.
Faut quand même se
Jusqu'en 90, hein,
on n'imagine même pas ça. C'est pas vrai, quoi. Ouais. C'est absolument. Là, donc, c'est des gens qui avaient. C'était une affirmation. Donc, ça m'a amusé d'écrire ce personnage comme ça, avec tout ce qu'il a vécu à cette époque-là, et surtout dans la rue, quoi. Oui, donc c'est un milieu un peu, oui, un peu.
Mais en fait, quand même, qui est très, très humain, et on le voit bien. Voilà, le livre est très émouvant.
Bien sûr, c'est un peu ça le truc, c'est qu'ils acceptent. D'ailleurs, le personnage principal, qui est cette jeune fille muette, elle est acceptée dans la tribu, quoi. Donc, et pourtant elle est muette, et pourtant elle est très jeune. Voilà.
Mais quand même, on se demande. C'est intéressant. Votre livre, il est à la fois très poétique, puis en même temps très brutal. Il est tendre. Enfin, c'est. En fait, c'est quand même une bouffée d'émotions assez intense. Et ce qui est intéressant, c'est vous jouez, puis on se pose la question en lisant votre livre de la place comme ça individuellement de chaque personnalité très forte dans ce collectif. Et donc, c'est marrant ce jeu que vous avez entre la place, l'individu et le collectif. Et on est toujours comme ça entre deux avec une grande délicatesse. Faut trouver sa place à soi, mais en même temps, il y a les autres.
Oui, c'est ce que j'appelle faire tribu. C'est ça, c'est-à-dire qu'il y a un moment, faut faire tribu, c'est pas faire la famille, c'est faire une tribu, c'est-à-dire c'est accepter ceux qui viennent très loin et puis avec chacun à passer très parfois très lourd ou très. Et puis surtout qui se révèle dans cette tribu, c'est-à-dire qu'ils sont heureux de tout d'un, ils prennent ça très au sérieux, tu vois, c'est parce que des fois c'est des gens qui sont pas des professionnels qui viennent d'ailleurs, qui sont l'ange Gabriel par exemple, c'est un personnage, on lui met deux ailes et il fait que voler entre deux câbles, ça demande pas une compétence, ça veut dire mais il s'y croit quoi, il se dit je vois, et il prend ça très au sérieux, ça devient, et ça c'est important. Enfin, c'est quelque chose que j'ai connu, que j'ai rencontré. C'est très touchant pour moi. Ça m'émeut beaucoup, quoi. Et puis c'est le début d'Aligre, mais c'est mes débuts, quoi, où on était plus sur l'énergie que sur la technique, on va dire. La technique, on l'a. Enfin, c'est l'histoire toute ma vie. Moi, je suis un autodidacte dans tous les domaines, que ce soit dans l'écriture ou que ce soit dans les spectacles. Et j'ai appris en faisant, quoi, en fait. Et même dans les chevaux, j'ai appris en observant, en faisant, en travaillant. Et donc, pour moi, ce côté vécu est très très important, quoi.
Mais d'ailleurs, il y a une phrase que ça dans le livre qui dit à un moment donné, j'ai rien appris, mais j'ai tout vécu.
Oui, oui, c'est vrai. C'est Céline, je crois, qui avait dit ça comme ça. Mais non, c'est oui, enfin, je oui.
Mais parce que alors, cette troupe là, donc on le voit bien, comme vous le dites, hein, il y a des histoires qui sont dramatiques. Et donc voilà, il y a une sorte de tolérance ou hop d'affection comme ça, tout d'un coup, ça va coller. Mais alors, vous croyez beaucoup au hasard ? Faut croire au hasard pour faire
ça ? Bien sûr, bien sûr. Moi, toute ma vie n'est qu'une suite de. Enfin, le hasard, pour moi, le hasard n'existe pas, quoi. C'est-à-dire que c'est que tout tourne autour de toi et tu les rends. Voilà, c'est la vie, tu les rencontres. Moi, les trois quarts d'heure, si je reviens aux chevaux, parce que j'aime bien que je revienne aux chevaux quand même, mes chevaux, je les ai toujours croisés par hasard, hein. C'est des choses qu'on m'a donné, que j'ai vu, c'est ce que je raconte un peu dans la chaleur, c'est une rencontre. Voilà, jamais je n'ai cherché un cheval pour exécuter une performance, jamais de ma vie. C'est même notre secret de travail. C'est-à-dire que les chevaux nous arrivent, alors on les cherche plus ou moins, mais on n'a pas prévu, on dit pas j'ai envie de faire ça, donc faut que j'achète un cheval pour faire ça. Non, comme tu dirais, j'engage un comédien pour remplir tel rôle qui est écrit au cinéma. Non, c'est on le rencontre, on l'achète ou pas, ou on nous le donne, il rentre dans la famille, et après c'est le contraire. Maintenant qu'il est là, voyons en quoi il est intéressant. Et parfois, ça peut même être un défaut. Hein, c'est ce que je raconte à un cheval, l'autre. Voilà. Parfois, c'est des défauts chevaux qui en font ses qualités et qui sont même le truc que retiennent les gens. Dire, oh, j'ai vu un cheval qui faisait un truc incroyable. Il parlait avec un comédien qui lui répondait. Et puis l'histoire, c'est que c'est un cheval qui avait un défaut, qui on appelle ça casser la noisette. Et avec Jean-Pierre Drouet, qui était un percussionniste qui est de génie, on a eu l'idée de faire, c'est un peu Sancho chopant ça. Hein. Vous savez, il est avec deux noix de coco. Et moi, je suis à cheval, c'est Don Quichotte. Et il parle au cheval. Il a un micro sur ses lunettes. Il s'approche, le cheval fait et lui, il lui répond. Et on dit, mais attends, le cheval répond. En fait, c'est lui qui s'adapte à ce que dit le cheval, quoi. Et le spectateur, il voit ça, il dit, mais comment il a fait? C'est pas possible, quoi. Donc souvent, c'est pas grand... Voilà, c'est savoir observer. Et chez les gens, pareil. Les gens qui faisaient partie de la tribu de la compagnie Azingaro, ils n'ont pas... D'ailleurs, ça peut être des physiques, des personnalités très différentes. Il n'y avait pas de... Voilà, il n'y avait pas de... C'est pas comme certaines compagnies de danse où ils sont tous pareils. On sent que il y a eu des auditions et toi, tu n'as pas la bonne taille, toi, tu n'as pas ci, toi, tu n'as pas ça... T'as pas la taille assez fine, toi t'as pas le style. Non, c'est au contraire, c'est sur l'énergie plutôt intérieure, quoi. C'est ça que j'ai voulu un peu aussi montrer, quoi. C'est des gens qui viennent d'horizons assez différents, chacun leur. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on l'apprend souvent. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai fait cette jeune fille muette, c'est que pour moi les muets, c'est comme les animaux. C'est-à-dire que tu te confies à un animal, souvent alors, un animal de compagnie. Tu vas te confier à ton animal. Pourquoi? Parce qu'il va pas raconter au voisin ce que tu lui as dit, comme il parle pas. Et c'est une des raisons pour lesquelles tu te confies à lui, quoi. Nous, je me rappelle à l'époque, c'est le fameux truc des circassiens. C'est à l'époque on bougeait beaucoup au début de Ningaro. On avait souvent dans des villes, on avait toujours droit les barjots de la ville, quoi. C'est-à-dire des mecs complètement tarés qui viennent te raconter des trucs qu'ils ont peut-être jamais raconté à leurs voisins qu'ils connaissent depuis 40 ans, parce qu'ils savent que demain tu seras parti. Donc il y a d'avoir une personne muette, c'est déjà des gens qui ont une qualité d'écoute qui pousse à la confidence, parce que pour pouvoir parler, il faut sentir que tu es écouté déjà. Donc voilà, c'est quelqu'un qui a un don pour ça, un don un peu animal, justement, parce que d'abord elle est avec son âne, et l'âne pareil, donc il y a une espèce de rapport un peu animal tous les deux, d'écoute. Et, voilà, qui a, donc elle a l'écoute, et après elle va avoir la lecture, quoi. Parce que pour moi, lire, c'est écouter avec la tête, en fait.
Il y a beaucoup de pages, j'ai repéré plein de pages dans ce livre, des petites phrases par-ci par-là sur ce que fait la lecture. D'ailleurs, dans ce livre, vous parlez de la peau de chagrin, du grand Moulne, de Madame Bovary.
Pour mettre dans le contexte, donc elle a subi un peu un roman d'apprentissage. Elle a un premier apprentissage qui est le funambulisme, danseur de cordes. Et donc c'est un peu le circassien, on va dire. Puis elle a cet apprentissage du rapport au public, on lui apprend à être dans la rue. Et puis parallèlement, un des personnages s'appelle l'érudit, le baron dit l'érudit, qui est un ancien prof de philo alcoolique qui se trimballe avec ses deux malles de livres et qui a été accepté dans la troupe. Voilà, donc il sort parfois des citations comme ça et qui décide de faire sa formation de lectrice puisqu'elle vient de la campagne. Elle a en plus un passé un peu douloureux. Enfin bon, elle est très jeune et donc il va lui donner des livres. Ça commence avec des classiques du Victor Hugo ou autre, souvent dans des versions, comment on appelait ça, les versions abrégées pour les écoles, quoi. Et il lui donne juste comme exercice, comme obligation de résumer le livre en une phrase ou deux sur sa petite ardoise, puisqu'elle elle s'appelle Cascabel, parce que ils lui ont donné une petite clochette pour pouvoir interpeller les gens, puisqu'elle est muette. Et à cette époque-là, il n'y avait pas encore le langage des mains, hein. Ça n'existait pas. Hein. Il est venu vers la fin, d'ailleurs, il arrive à la fin du roman, qui est une libération, hein, pour les muets, quand même, faut pas l'oublier. Et le langage des gestes, et elle est obligée d'écrire sur son ardoise, en fait. Et donc elle a comme exercice de résumer les livres. Mais alors, ce qui m'a amusé, c'est que c'est fait effectivement de manière assez pas radicale, mais c'est fait comme un apprentissage, comme tu feras un apprentissage d'un sportif ou le machin. Tu as des exercices à faire tous les jours et progressivement tu lis de plus en plus. Mais la lecture, c'est un exercice, c'est-à-dire que ça se travaille, la lecture. C'est un muscle, tu travailles un muscle de la tête à lire, parce que plus tu lis facilement. Moins tu lis, plus tu as du mal à lire, quoi. Un peu comme tout, quoi. Plus tu cours, plus tu as de la facilité à courir. Et donc, ça m'a amusé de le faire comme un apprentissage de circassien, presque. C'est des exercices, quoi. Et alors, ça, c'est assez étonnant, mais là, c'est assez...
Oui, puis plus tu parles, plus tu deviens haut-parleur. Enfin, c'est pas moi qui le dis, c'est le livre.
C'est exactement. Voilà. Et donc, ce qui est intéressant, c'est... Et là, c'est un truc qui m'a surpris moi-même, je veux dire. Alors, parce que moi, c'est mon premier roman. Hein. Les autres, c'était des récits. Bon, les Cogne-trottoirs, quand il dit du corbeau, c'est une espèce de fable un peu en cas à part, quoi, des fables poétiques. Mais ce qui est assez étonnant, c'est que moi, quand j'ai commencé à faire, moi, j'avais jamais raconté d'histoire, parce que dans mes spectacles, il y a un thème, mais il n'y a pas d'histoire, quoi. Hein, il y a une suite de tableaux comme ça sur un thème, et chacun,
c'est un peu des histoires quand même aussi. Enfin,
il n'y a pas d'essai une fois,
et
donc là, ça me faisait un petit peu peur, ça veut dire, tiens, maintenant, enfin. Et ce qui est très étonnant, alors tous les romanciers vont dire, mais Barsaba, c'est une évidence, mais pour moi, c'était nouveau, j'ai pas peur. C'est qu'il y a un moment, tu construis des personnages comme ça, et il y a un moment, ils se dressent devant toi, et ils prennent la main sur toi, c'est ils t'enlèvent ta capacité de dire « je », quoi. C'est eux qui décident. Et alors, j'en viens à ça, justement, son rapport à la lecture, cette jeune fille, et ça, je l'avais pas prévu au départ, dans ma tête, très vite, enfin, assez... Plus j'avançais dans le livre, je me suis dit, si là j'ai arrêté, parce que j'ai fait une fin ouverte qui permet éventuellement même une suite, donc on sait pas ce qu'elle devient après. Elle est encore très jeune à la fin du roman, mais dans ma tête, il est évident qu'elle deviendra écrivaine, et ça s'est révélé petit à petit, quoi. Je savais pas, j'avais pas dit, tiens, au début, mais je me dis, tiens, qu'est-ce qu'elle pourrait dire sur le truc. Puis je me dis, quand même, on s'aperçoit qu'elle a des réponses de plus en plus, quand même, très très pointues, quoi.
Hein, c'est sûr. Voilà. Des jolies phrases, enfin, c'est peu de mots, mais choisis.
Voilà, c'est très, il y a un condensé, il y a une donc ça, c'est pour moi, c'est ce qui va faire une écrivaine, quoi. C'est capable d'analyser avec sensibilité un sujet, quoi. Et mais ça, j'avais pas prévu, par exemple, au départ, et c'est ça m'a beaucoup interpellé, quand même. Et c'est là que je me suis dit, mais en fait, quand tu fais un roman, tu mets plus que si tu, une fois que tu as craché ton roman. Et tu te dis maintenant, tiens, je vais le relire en disant, qu'est-ce que tu as laissé passer à travers toi, moi, Barthabas. Tu t'aperçois qu'il y a plein de choses que tu as laissé passer à travers tes personnages, peut-être plus que dans un récit où tu dis je, quoi. ce qui est pas évident, parce que tu dis un récit normalement, je là tu vas dans l'intime, tu t'interroges toi, mais c'est pas vrai, parce que dès que tu mets je, tout de suite tu fixes tu te fixes toi-même inconsciemment un garde-fou. Tu dis je me découvre, donc tu te protèges. Mm. Alors qu'à travers tes personnages, tu peux te lâcher, quoi. C'est à des gens qui me connaissent bien ont vu, tu dis ah ben ouais, c'est toi, quoi, à travers tous les personnages d'ailleurs. Hein. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je me suis permis même de rentrer dans l'histoire. Mais bon, ça, je vais pas trop le dévoiler, pas trop pour éviter le côté, parce qu'évidemment, je suis plus connu en tant que Bartabas Zingaro qu'en tant qu'écrivain. Donc, c'est un peu comme un chanteur qui fait l'acteur. Tout de suite, tu vois le chanteur, quoi, avant de voir l'acteur, quoi, avant de voir le rôle, etc. Donc, moi, je pourrais éviter ça, que dès que quelqu'un commence le roman, de mais il est où Bartabas, c'était le personnage, c'était.
Voilà, enfin, il y a un petit clin d'œil quand même sur Bartabas. Voilà. J'en dis pas plus, mais oui. Vers la fin, il y a un micro clin d'œil.
Il y a un gros clin d'œil, ouais. Pour désamorcer, mais ce qui permet même de voir l'histoire autrement, ouais, dans ce prisme-là, quoi.
Mais alors, et toi, comment t'es rentré dans la lecture alors? Pareil comme
ça. Moi, pas du tout comme ça, justement. C'est pour ça que ça m'a intéressé de l'inventer. Parce que moi, j'ai pas peur de dire, pendant très longtemps, j'étais un piètre. Enfin, pas que j'étais un piètre lecteur, c'est que j'étais un lecteur compulsif et intéressé. C'est-à-dire que je ne lisais pas par plaisir, à part le livre de quelques amis que je lisais parce que je les aimais bien et que ça m'intéressait de les lire, quoi. Mais j'allais pas acheter le dernier prix Goncourt ou le machin pour le lire. Non, non. D'abord, pour une raison très simple, c'est que moi, pendant 40 ans, j'ai pas demandé une seconde, quoi. Vraiment, c'est-à-dire quand tu as 45 chevaux, c'est ta responsabilité, plus 45 personnes, que tu as un chapiteau, que tu fais le tour du monde, que tu embarques tes chevaux dans un avion pour aller à New York, c'est une vie passionnante, mais qui te laisse stressé toute la journée, quoi. Moi, j'ai jamais pris plus d'une semaine de vacances, même pas une semaine de vacances, c'est pas possible. Au bout de 3 jours, je téléphone, est-ce que ça va, est-ce qu'il y a... Parce que voilà, c'est tellement fragile de travailler avec les chevaux que tu... Mmh. Faut bien se rendre compte ce qu'a été Zingaro, hein, ce qu'il est moins maintenant parce qu'on tourne plus, mais tu fais un spectacle, bon, déjà, faut que ça marche et tout, avec des chevaux, donc c'est très fragile, ils sont tous des solistes. Un mec regarde le spectacle, t'achètes ton spectacle pour aller à New York dans un an et demi, par exemple. Parce qu'il faut au moins 1 an et demi pour le préparer, ou 2 ans, parfois. Donc pendant 2 ans, t'angoisses de dire... Bon, il pas tout de. Et il faut continuer. Il faut pas qu'il y ait de problème, quoi. Mmh. Donc, tu as une discipline de travail, de sécurité absolue qui est vraiment très, très. Enfin, nous, c'est pour ça qu'on habitait en caravane. Tu es jour et nuit à côté de tes chevaux. S'il y a le moindre problème, il faut être là. Enfin, voilà. Donc, c'est quelque chose qui t'absorbe complètement ton temps. Et puis surtout, tu te lèves tôt le matin. C'est quand même physique de monter à cheval. L'après-midi, tu fais une petite sieste quand même. Et après, à 5 heures, tu commences à te préparer pour le spectacle. Tu fais le spectacle, tu peux pas aller te coucher après le spectacle, je recevoir un peu les gens. Donc, minimum, tu te couches à 1 heure du matin et tu te lèves à 6 heures, hein, le matin. Donc, il y a un moment, le soir, moi, quand je voulais lire, je me couchais, j'ouvrais le bouquin, je lisais 2 pages et boum, je m'endormais, quoi. Mmh. Alors, c'est pour ça que j'aime beaucoup la poésie d'ailleurs. Il y a un petit quatrain de François Cheng, c'est nickel, hop, tu t'endors avec, c'est parfait, quoi. Mais voilà, donc, alors par contre. Quand j'étais dans les périodes de préparation, c'est tous les 3 ans, c'est des cycles de 3 ans, hein, les créations, pendant longtemps, ça a été toujours ça. Et donc, pendant la préparation d'un spectacle, c'est-à-dire presque 1 an, c'est quand même 1 an sur 3, tu me diras, c'est quand même pas mal. Là, je suis un lecteur compulsif, mais pas que lecteur. Je vais voir des expositions, je regarde tous des documents sur le thème. Si je travaille sur le bouddhisme, par exemple, au Tibet, voilà, je vais lire tout ce qu'il y a d'intéressant là-dessus, plus ou moins, enfin tout, c'est bien. Prétentieux, mais voilà, et là j'absorbe, je lis vraiment, mais je lis de manière intéressée. Mmh. Tout d'un coup, je vais capter, et même j'allais dire, si par hasard je lis autre chose, je regarde un tableau et tout, je vais y voir que des choses qui m'intéressent. Et ça, c'est un truc qui est assez. J'en ai fait presque une espèce de théorie, quoi. C'est-à-dire que quand tu es absorbé par un travail, par une recherche sur un travail, tu ne vois plus les choses de la même manière. Un tableau que tu connais, tout d'un coup, c'est ce détail-là du tableau qui va t'interpeller parce qu'il est en correspondance avec ta réflexion de maintenant, quoi. Mmh. Je sais pas si je suis bien clair.
Si, très clair.
C'est très intéressant parce que c'est là que tu montres que les œuvres, une œuvre est fixe et c'est nous qui tournons autour. Alors, on en a parlé tout à l'heure, ton vécu, ton âge, tu l'as vécu dans ta vie et même ta recherche, ton pôle d'intérêt et tes pôles d'intérêt, je veux dire même ce que tu as besoin d'absorber, quoi. Tu ne comprends une œuvre que quand tu es prêt à la recevoir.
Ça, c'est ce que tu écris sur les livres aussi, en bien disant sûr. Le livre.
Moi, à l'école, j'ai été péniblement jusqu'au bac, Eh bien, alors bien sûr, j'ai dû me taper des auteurs que tout le monde se tape au bac, etc. Donc on m'a expliqué pourquoi c'était intéressant, etc. Lui, c'est le premier à parler, lui, il parle de ça. Et j'ai dit, ok, bon, si t'es pas trop con, tu le recraches le jour de l'examen, ce qu'on t'a dit, quoi. Mais tu n'as rien ressenti, ouais. Tu n'as rien compris. Et le même livre, tu vas le découvrir 10 ans, 20 ans, 30 ans après, et là, tu vas le comprendre. Parce que tout d'un coup, il correspond à quelque chose, à un besoin à toi intérieur. Et tu vas le comprendre ou le rejeter. Forcément, il va te laisser indifférent, peut-être dans l'autre sens. Mm. Parce que tout d'un coup, ce qui te passionnait à 20 ans, tu le lis à 50 ans, tu dis, ouais, bon, c'était sympa ce truc-là, mais il n'y avait pas de quoi. Ouais, bon, par exemple, peut-être, je ne sais pas. Mais c'est intéressant parce que l'œuvre reste. Et ça s'oppose vraiment au milieu de la rue. Justement, ouais. Ce que j'ai voulu essayer de décrire, c'est ce spectacle éphémère qui, lui, disparaît en même temps qu'il se crée. Hein, et le travail à cheval, c'est comme la danse. Tu fais quelque chose, ça dit au moment où tu le fais, ça disparaît. Voilà, donc tu l'as vu plus ou moins, tu l'as ressenti, mais tu pourras pas le refaire. Hein. Donc voilà, il y a un côté comme ça, c'est deux choses très.
Et pour moi, oui. Et il y a autre chose qui est intéressante dans ce livre et qui est comme ça en correspondance de deux choses très différentes, c'est que bon, il y a une bonne partie du livre qui se passe à Paris, à Belleville, au Butte-Chaumont, et en même temps, il y a un lien à la nature très fort.
Oui, ben surtout à travers un personnage qui est la Mésange. Voilà, qui mais là, je peux pas raconter. Ça me vient toujours de raconter parce qu'il y a un rapport aux oiseaux. Déjà, dans Paris, moi, j'ai fait pas mal de recherches quand même. Et on a perdu plus de 70% des espèces d'oiseaux à Paris hein, par rapport à ces années-là. Hein. On parle pas d'il y a très longtemps. Hein. C'est impressionnant.
Ouais,
hein,
c'est-à-dire
voilà, pour différentes raisons que j'ai pas besoin de vous expliquer, que tout le monde connaît. Et donc ça m'a intéressé aussi, montrer que même dans les années 80, c'était un Paris qui était plus naturel, c'est un bien grand mot, mais voilà, moins...
Il y avait la présence de la nature, en tout cas.
Il y a une présence de la nature, ne serait-ce qu'à travers les animaux, voilà, principalement les oiseaux, d'ailleurs, mais pas que. Et voilà, et c'est vrai que... Et puis bon, ça commence quand même, le roman commence dans la forêt, J'ai fait exprès de commencer comme un conte de Grimm, un peu.
Oui, parce que
c'est une enfant sur un âne qui cherche à survivre, mais on sait pas où on est, on sait qu'on est dans la forêt, plus ou moins, mais quelle forêt, on sait pas, à quelle époque on est, on pourrait être au Moyen-Âge, on sait pas. Et puis tout d'un coup, voilà la première rencontre, ce gars qui est devant un feu comme ça et qui lui offre une brochette de marshmallow. Alors là, le marshmallow, c'est l'entrée dans le 20e siècle, quoi.
Et tout donc ce démarrage là, on a bien compris que pendant toute la durée du livre. On va être dans un autre vocabulaire qui est un vocabulaire du corps. Ouais. Et d'ailleurs, à un moment donné...
Dès le début, même au début, c'est beaucoup voilà. Un vocabulaire du corps.
C'est le vocabulaire du corps.
Dès le début, au contraire. Oui, bien sûr, ben, ça parle de ça, des cogne-trottoirs. Il ne faut jamais oublier que c'est ça. Hein, le mot cogne-trottoir veut dire en argot, c'est les flics au départ. Et par extension, c'est devenu les banquistes, c'est les acrobates de rue qui faisaient des sauts périlleux et des flip-flap, à même le macadam, à même le pavé. Et donc, c'était assez dur pour les articulations. Donc, on les appelait des cogne-trottoirs.
Et donc, il y a...
Donc, il y a un rapport au corps permanent, parce que d'abord, c'est un travail physique et métaphysique, parce qu'il y a la différence entre elle devient un peu danseuse de cordes avec son âne, bon, le personnage qui lui apprend ça est un funambule de grande hauteur, qui est complètement un autre métier, en fait. C'est quelqu'un qui rentre... C'est souvent des gens, c'est très... psychologiquement très intéressant. Les grands funambules, c'est des gens qui montent à grande hauteur, donc c'est pas que technique. Il y a un côté métaphysique pratiquement, hein. C'est-à-dire que tu es d'abord, c'est très très dangereux évidemment, parce que si tu tombes, c'est pas que tu te casses la jambe, c'est que tu meurs. Mais donc ça, c'est un regard sur le monde qui est très différent, quoi. Moi, tous ceux que j'ai rencontrés, c'est des gens assez barjots, mais barjots dans le thème, dans le côté métaphysique, ce que j'appelle. Ils ont un regard sur le monde qui est très particulier. D'ailleurs, ce que j'essaie de faire ressentir avec le personnage de Christian, voilà, qui n'est pas le côté saltimbanque justement des cogne-trottoirs, qui est plutôt drôle, quoi. Enfin, qui est plutôt. Et alors, cette âne est funambule en plus. Bon, là, j'en dis trop, mais bon.
Non, on va pas en dire
alors,
plus.
Vous allez dire c'est magique, mais attention. Hein. Moi, j'adore les ânes, et pour moi, les ânes, ce sont des sages, ce sont des philosophes. Pourquoi? Pour une raison très simple, c'est qu'ils vivent plus que deux fois qu'un cheval. C'est-à-dire qu'un âne peut vivre jusqu'à 40-50 ans. De là vient d'ailleurs, ça c'est ma théorie qui ne vaut que ce qu'elle vaut, mais pourrait la ressortir si vous voulez dans les dîners mondains. Si on dit têtu comme un âne, n'est pas plus têtu qu'un cheval, c'est pas vrai. Simplement, il faut bien se remettre. Moi j'aime bien les paroles populaires comme ça, parce que souvent il y a toujours une raison. Hein. Et on disait têtu comme un âne, pourquoi? Parce que par exemple, après 20 ans de travail avec le même maître à faire les mêmes gestes, les mêmes habitudes, sortir de l'étable pour aller dans le pré là, pour aller dans le champ là. Il faisait, il y a un côté répétitif, hein, du travail d'un paysan avec son animal. C'est un côté, voilà, très. Et le jour où le propriétaire mourait, l'âne avait par exemple 20 ans, ou 22 ans, ou 25 ans, et on le mettait en vente à la foire. Et quand tu as passé 20 ans avec tes habitudes quotidiennes et que tout d'un coup on te change d'endroit, de milieu, de maître, de propriétaire, ben forcément tu renacles un peu. De là vient l'expression « têtu comme un âne ». Je sentais que vous avez un petit doute hein, sur mon explication, mais elle vaut ce qu'elle vaut. Mais bon, mais vous pourrez dire c'est Barthabas qui le dit, donc ça doit être vrai.
Bon, mais
et
non,
donc,
mais...
je finis. Vas-y. L'âne et la mule sont les seuls équidés qui ont la conscience de leur posée de membre. Okay. C'est-à-dire qu'un cheval va poser le pied à côté, il va se rattraper s'il voit qu'il va tomber. Mais il ne va pas calculer d'où il pose les pieds. Alors que les ânes et mules ont ce qu'on appelle dans le langage populaire encore le pied sûr. On dit ces animaux ont le pied sûr, c'est pour ça qu'on les emmène dans l'Himalaya, dans les grandes ascensions, et qu'ils portent. C'est pas parce qu'ils portent plus, c'est pas vrai. Un cheval peut porter sur un bât autant de poids qu'un âne ou qu'une mule, mais ils ont le pied sûr. Donc de là à avoir le pied sûr, je dis pourquoi pas les faire marcher sur un fil. Voilà. Et c'est très technique. Hein, le funambule lui fait une petite fente en talon et en pince dans son sabot pour que ça. Donc on y croit, quoi. Je veux dire, c'est, ça a l'air magique un peu comme ça, mais si Barthabas dit que c'est possible, c'est que ça doit être vrai, à mon avis.
Mais dans ce livre, quand même, donc cette histoire du rapport au corps, on voit bien, il y a dans tout ce que vous venez de dire, il y a dans ce livre, il y a ça, il y a l'écho à la peur du danger, ce qui ne se passe pas comme prévu. Vous racontez tout ça dans ce livre, et puis le rapport au corps qui est une priorité, il faut un instinct de malade mental. Faut s'écouter, faut écouter
oui, bah,
l'environnement. C'est en fait, c'est un dialogue permanent avec son corps.
Oui, puis pas forcément le corps de l'acrobate. Hein. Ça peut être le corps vieillissant, ça peut être le corps laid, soi-disant. Enfin, il y a tout un. C'est des personnages qui sont tous. Voilà, il y a des tordus, il y a un peu. Oui, oui, c'est vrai qu'il y a un. Ouais, je sais pas quoi vous répondre. Oui.
Mais quel rapport vous avez avec votre corps aujourd'hui?
Ah ben moi j'ai un rapport. Comment dire. C'est compliqué parce que moi j'ai eu la chance, mon rapport et mon évolution, j'allais dire physique et même psychologique, a toujours été lié à mes chevaux. Quoi. C'est assez particulier parce que moi j'ai eu la chance, de par la manière dont je travaille, de pouvoir partager la vie de travail, je dis bien, pas juste l'observation. Je revendique toujours ça. Hein. J'ai eu une vie, un rapport de travail avec le cheval, avec tout le respect que ça implique. Moi, je préfère me comparer même à un paysan avec ses animaux, qui avait un vrai respect pour ses animaux, parce que d'abord, c'était son outil de travail. Donc, il le respectait à ce titre-là. Mais ce n'est pas une béate admiration. Bien sûr, il y a une passion depuis gamin. Mais voilà, ce n'est pas la Panthère des Neiges, quoi, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Le cheval m'a appris des choses dans l'échange.
Par exemple ?
Mais tout, tout.
C'est-à-dire ?
Bah, c'est-à-dire tout, la vie, jusque même le vieillissement, puisque si vous voulez, je vous raconte des anecdotes, je peux, mais voilà, on a pour 10 heures.
Hein. Bah, racontez-moi une au moins, bah, encore un quart
d'heure. Une au moins, par exemple, j'ai un cheval qui s'appelait Horizon, c'est un cheval que j'ai acheté à l'âge de 5 ans, que j'ai gardé jusqu'à l'âge de 29 ans. Gardé dans les écuries à Zingaro, donc je travaillais tous les jours. Je voulais dire qu'à la fin, c'est de la gériatrie, hein. C'est-à-dire quand je le sortais, il fallait que je l'échauffe muscle par muscle, etc. Donc déjà, ça t'apprend sur ton corps, à toi. T'aperçois, tu vois, comment il faut. T'es à l'écoute du corps, quoi. Hein. Quand tu montes à cheval, t'es à l'écoute du corps, hein, aussi. C'est-à-dire, qu'est-ce que le corps de l'autre te dit? Qu'est-ce que voilà. Donc il y a ce côté-là, ce truc. Et puis surtout, moi, j'ai pu me permettre ça parce que c'est ce qu'on disait au début. J'ai adapté mon travail aux chevaux toujours. C'est-à-dire qu'un dans le sport, par exemple, ça n'arrive jamais à des cavaliers de pouvoir partager le travail jusqu'à cet âge-là, même 20 ans, 25 ans ou 30 ans. Pourquoi? Parce que dans le sport, dès que tu es plus performant, tu vends ton cheval, soit tu le mets à la retraite, tout, mais il ne peut pas continuer. Tu continues à être un grand sportif, par exemple, donc tu vas chercher un autre cheval pour le remplacer. Moi, j'ai eu la chance, dans mes spectacles, j'ai pu adapter. C'est-à-dire que, par exemple, ce cheval-là, qui avait un piaffé extraordinaire, très spectaculaire, une espèce de trop sur place comme ça qui demande beaucoup d'énergie, ben, jusqu'à la fin il l'a fait. Et je l'ai même amené ici pour ceux qui ont à Bordeaux un des derniers spectacles qu'il a fait. Ça devait être Golgotha ou le Centaure et l'animal, je sais plus, à l'Opéra de Bordeaux sur scène. Voilà, vous l'avez vu, ce cheval qui était tout blanc quand je l'ai acheté, il était gris. Bon, il avait déjà 25 ans quoi, mais pourquoi? Parce qu'il faisait une intervention de 3 minutes. C'est-à-dire que c'est comme moi j'adore les danseurs un peu âgés. Les grands danseurs, pour moi, ils sont intéressants que quand ils commencent à avoir un petit bidon et qu'ils ont du vécu, etc. C'est, ils ont, pourquoi ? Parce qu'ils ont, ils ont perdu peut-être un peu de souplesse et d'amis, mais ils ont, ils habitent leur mouvement avec tant de parce que forcément, il y a, la vie est derrière, quoi, le geste, quoi. Mmh. Et ce qui est intéressant, c'est que les grands danseurs étoiles sont encore extraordinaires, mais sur un petit solo, ils pourraient pas faire un spectacle d'une heure et demie, mais ils restent encore très performants sur 4 minutes ou 5 minutes, quoi. Donc c'est moi, j'ai pu offrir ça à mes chevaux, quoi. Donc j'ai pu les garder. Donc ils m'ont appris tout ça tout le long de ma vie, quoi. Mmh. Et donc ce cheval-là, puisque je vous raconte ma petite anecdote, cet air qu'il faisait comme ça de manière très spectaculaire, avec le temps, il le faisait toujours. Moi, la dernière fois, par exemple, quand je l'ai mis à la retraite, je l'ai monté une dernière fois et je l'ai fait piaffer. Il avait un piaffer d'une douceur et d'une sensibilité incroyable, beaucoup moins spectaculaire. Et pour moi, j'ai compris qu'il n'utilisait, alors qu'il était quand même assez âgé, il n'utilisait pour faire le mouvement que les muscles dont il avait besoin. C'est-à-dire de l'air, il avait quitté tout le côté expansif, spectaculaire, la frime, quoi, on va dire, quoi. Il n'avait gardé que les... Et pour moi, c'était devenu un yogi, quoi. Et ça, c'est un truc, par exemple, qui m'a beaucoup fait plaisir. Pas un plaisir, vous allez comprendre, c'est que moi, quand tu travailles toute ta vie avec des chevaux, tu dis, bon, bah, c'est sympa, mais moi, je les ai quand même beaucoup utilisés. Mais eux, qu'est-ce que je leur ai donné, en fait, à mes chevaux? À part que, évidemment, je me suis occupé d'eux, j'ai fait le maximum pour qu'ils soient psychologiquement et physiquement toujours dans le respect de leur travail, enfin, de leur corps. Mais qu'est-ce que je leur ai apporté? Ben, là, j'ai dit, tiens, ce cheval-là, c'est plus le même cheval qu'il y a 20 ans. Il est devenu, il a appris dans le mouvement, il a appris quelque chose. Je sais pas si je suis bien clair. Là, je parle de, il a appris quelque chose dans le rapport à son travail, quoi, en fait, quoi, comme un danseur qui est voilà. Et ça, c'est assez intéressant. Et alors, pour l'anecdote, par exemple, ce cheval-là, je l'ai mis, parce que quand je donne toujours mes chevaux quand ils partent à la retraite, je n'ai jamais vendu un cheval de ma vie. Donc, quand un cheval ne me sert plus, soit parce qu'il est trop âgé, je le donne à des gens. Je leur dis, continuez à le balader, faites plus de spectacle, évidemment, mais continuez à le balader, vous en occupez, puis progressivement, vous le mettez au prix, etc. Et je vais jamais les voir. Je vais jamais les revoir, ça. Parce que comme moi, quand je donne les chevaux même âgés, ils sont travaillés tous les jours, donc ils ont encore une musculature un peu harmonieuse. Et évidemment, ce qui est normal, quand tu commences à mettre un cheval au prix, bon, bah, il se démit, il devient un vieux cheval, quoi. Et moi, ça me fait très... Enfin bon, c'est un peu personnel, voilà. Et donc je donne je l'avais pas donné d'ailleurs, comme c'est un cheval, on l'avait mis dans un haras en pension, quoi, en fait, il était à la retraite. Et il se trouve qu'à cet endroit-là, il y avait des poulains de mon académie à Versailles, c'est un haras qui est près de Versailles, qui était là-bas et que je devais aller voir. Bon, je sais plus quelle raison, fallait que j'aille voir ces poulains. Donc je n'allais pas pour voir le cheval, donc j'y vais pour voir le truc, et le cheval était là, dans le pré d'à côté, quoi. Et donc j'ai dit, maintenant qu'il est là, je vais quand même aller le voir, quoi. Et donc il avait l'air un peu con, il avait mis un espèce de bonnet pour en zèbre là, contre les moustiques, contre les mouches là. Et donc je vais le voir, je m'approche de lui, je lui parle un peu. Et au bout d'un moment, je le vois comme ça, il se barre. Il va voir la jument à côté, certainement du cru, je crois, il se tire, quoi. Et donc je monte dans ma bagnole et je me barre, quoi. Alors là, je vous vois venir déjà, vous dites, oh le pauvre, etc. Et ben j'étais très très content. Pourquoi j'étais très très content? Parce que pour moi, justement, je n'avais pas mis le cheval dans un état de dépendance. C'est-à-dire que maintenant, il était devenu un autre cheval, de cheval de spectacle, yogi, machin. Il était passé à une autre vie qui était peut-être tout à fait aussi riche aussi, mais qui n'avait plus de rapport avec moi, quoi. Mmh. Et ça, c'est une notion, enfin, pour moi, très que les chevaux m'ont beaucoup appris. Alors, qu'est-ce que m'ont appris les chevaux, entre autres? C'est de ne jamais mettre les gens avec qui tu travailles, que tu côtoies, dans un état de dépendance. Et ça va loin, ce raisonnement, parce que tu peux l'appliquer à tout, quoi, en fait. Et souvent, d'ailleurs, c'est assez européen, parce qu'en Asie, en Inde, il n'y a pas ce rapport-là avec l'animal. Souvent, en voulant bien faire, les humains mettent... c'est surtout avec les animaux de compagnie que ça existe, ça, parce qu'un cheval n'est pas un animal de compagnie. C'est-à-dire qu'en fait, le temps que tu passes avec lui, ça peut être 3-4 heures par jour, mais pas plus. Le matin, un peu le soir au spectacle, le reste du temps, il est quand même dans sa cellule, dans son box, et il réfléchit. Je veux dire, c'est un autre rapport, quoi. Mais voilà, souvent, quand on a un rapport avec les animaux, on veut les attirer à soi, les mettre dans un état de dépendance, qui fait qu'après, ils sont dépendants de toi. C'est-à-dire, ils sont très tristes si tu n'es plus là, ils ne supportent plus que tu sois absent, etc. Enfin, je vois qu'il y a des gens qui doivent connaître ça ici. Voilà, et ça, c'est un truc qui m'a toujours mis en... J'ai toujours eu très peur de ça. Je trouve que c'est pas bien pour moi de mettre les animaux. Les animaux ont leur vécu, ils ont leur vie. C'est un peu comme les enfants, ils ont une perception qui est différente, qui est pas ni moins bien, ils ont une perception différente qui évolue avec le temps. Les animaux, c'est pareil. Donc tu peux la faire évoluer par la relation avec lui, mais tu dois toujours faire attention de ne pas mettre ton animal dans un état de dépendance par rapport à toi, quoi.
C'est la raison pour laquelle l'amiral, par exemple, ce chef d'orchestre un peu de cette troupe, disparaît de temps en temps, quelques jours.
Oui, bah il est un peu, c'est inspiré pareil du personnage, il est un petit peu. Moi, je ne rentre pas dans les yeux, mais on comprend qu'il a quand même des problèmes un peu.
Il ça, est
un
c'est
peu,
sûr, mais
il est un peu bipolaire, quoi. Ah bah, il y a des moments, il pète les plombs, donc il disparaît.
Donc il disparaît. Fait, mais en même temps, c'est intéressant ces moments où tout d'un coup, il est plus là, parce que la troupe voilà, doit exister quand oui, même sans ça. Lui.
Exactement. Ouais.
Et donc, et ça, à cet
ça
endroit,
ça permet de rebattre les cartes un peu.
Enfin, ça rebat les cartes.
Ouais, ouais.
De même du lecteur qui se dit, bah, qu'est-ce qu'on fait maintenant alors quand on suit cette troupe, on est avec elle, et cette troupe, elle est. Elle est bouleversante quand même parce que ce que je disais tout à l'heure en préambule, c'est à la fois des personnalités très tendres. Enfin, ce qui ressort beaucoup de cette équipe, c'est la tendresse, il me semble. Et en même temps, c'est très brutal parfois.
Oui, bah justement, c'est...
Parce que la vie dans la rue, c'est dur.
Oui, d'abord, c'est une vie... Et puis souvent, on oppose justement ces deux termes. C'est-à-dire que tu peux avoir une vie brutale et être très sensible. Et très... Voilà. C'est ça, c'est assez important pour moi, quoi. C'est cette notion... Par exemple, c'est pour ça que ça m'intéressait même de faire une jeune fille qui est acrobate, plus ou moins, travaille avec son corps, mais qui va devenir intellectuelle aussi. Tout ça ne s'oppose pas. Tu peux pas dire, ah ben, c'est un sportif, il est con comme, une, comme la lune, ou c'est un athélo, il est nul, il sait pas courir, toi, ou j'en sais rien. C'est tout ça, c'est souvent des préjugés,
des a priori,
des a priori, des préjugés,
les deux en même temps. Allez,
voilà, qu'on et ça, c'est intéressant. Enfin, ça m'a intéressé aussi. C'est qu'effectivement, il peut y avoir. Et puis là, et puis encore une fois, à cette époque-là, la vie était plus dure. Hein, faut jamais l'oublier, quoi.
Ah oui.
Ouais, tant mieux, hein. Mais vous pensez que, bah, je sais pas, vous avez dû connaître ça, ou moi, mes parents m'ont raconté ça quand ils étaient gamins dans les campagnes. Ils avaient un sac avec des livres qui pesaient au moins 4-5 kilos. Ils avaient trois bornes à faire pour aller à l'école, hein, à pied, dans la neige. Il n'y avait pas le bus qui t'attendait, puis le sac est trop lourd, un machin, si ça. Enfin, la vie était. Et puis, par exemple, à cette époque-là, les enfants travaillaient dans les mines encore, quoi. Il faut quand même se rendre compte. Et on n'est pas au Moyen-Âge, hein. Je veux dire, donc la vie était beaucoup plus dure. Hein. On a beau dire maintenant c'est très stressant et tout. Non, heureusement d'ailleurs, l'être humain est mieux traité, quoi.
Mais pour écrire ce livre, du coup, il a fallu faire appel à quoi, à la mémoire, des souvenirs, des choses écrites ou pas?
Hein,
des notes écrites ou pas?
Non. Non, aucune note, enfin aucune note préalable.
Hein, okay.
Non, c'est dans le souvenir, beaucoup de documents quand même, des photos, des tout que j'ai retrouvé. Oui, il y avait de ça. Et puis j'ai voulu re-rencontrer des gens que je connaissais plus ou moins, bon, même si c'était des années après, des gens que j'ai un peu interviewés, qui ont inspiré un peu le récit, quoi. Donc voilà, il y a des.
Mais ça devait être très émouvant alors, de retrouver des gens.
Oui. Il y en a même un.
Enfin, bah,
oui, mais je n'ai pas envie d'en parler parce que ça fera peut-être l'objet. Oui, il y a même une histoire parallèle. L'amiral, par exemple, il était très inspiré d'un personnage qui n'a pas voulu, qui est devenu complètement barjou, quoi. En fait, qui était retiré, qui avait changé de vie depuis 30 ans, truc, et qui voulait pas reparler de cette époque-là.
Pourtant,
au moment où j'ai fini le livre et tout, il est décédé. Donc, je l'ai apporté à sa veuve. Et moi, j'ai jamais osé franchir le pas, aller le voir, et j'ai regretté parce qu'elle m'a dit, il était barjot, hein, attention, il s'enfermait chez lui, il était devenu complètement parano. Et il m'a dit, mais tout l'été avant de mourir, il n'a parlé que de ça, il me dira quand même, Barthabas, il faudrait que je l'appelle et tout. Et j'ai regretté, là, par exemple, de ne pas avoir franchi mais par respect pour lui, comme il m'a dit qu'il voulait pas, c'était parce que bon, il avait quand même morflé quand même pas mal dans cette histoire-là. Bon, il avait fini complètement alcoolique dans les fonds. Enfin bon, c'était tragique, quoi. Et donc. Voilà, donc il y a des voilà pour répondre à parfois c'était touchant, c'était particulier quoi.
Mais tout le monde peut en fait, on a l'impression quand on lit ce livre, on a l'impression que c'est pas accessible à tout le monde de vivre comme ça.
Ben moi, je dirais que ce personnage là, justement, l'amiral, sa force c'était justement il prend des gens dans la rue, ça peut être un Fordéal, ça peut être un ceux qui ont chacun une histoire, mais c'est pas forcément des artistes à part une qui joue de la musique, madame, mais les autres, il en fait des personnages,
mais donc c'est un sacré voilà. Talent ça de faire d'artistes,
oui, enfin, c'est voilà. Alors ça a une certaine limite. C'est-à-dire que ça a une beauté dans la rue, que j'ai connue, moi, c'est vrai que ça a une beauté comme ça, mais dès que tu les mets en salle ou un truc organisé, tout d'un coup, ça devient... Et j'ai voulu l'évoquer, d'ailleurs, ça, quand il y a cette fameuse truc à l'hôtel Meurice, Ils sont dans la rue.
Grande scène. Hein,
ils sont tous fabuleux parce qu'ils ont tous des costumes comme ça dans la rue. C'est magique. Quand tu les vois déboucher dans la rue, c'est magique. Et puis quand tu les mets, quand tu les confrontes, bon, je vais pas raconter le truc, mais quand tu les confrontes
au showbiz
de l'époque avec justement les trucs de tout d'un coup, ils se deviennent ridicules. C'est des costumes qui paraissaient fantastiques.
Ça marche pas.
C'est ça, devient des voilà. Ils sont c'est fait de briques et de broc. Voilà, il y a ce le contraste m'a beaucoup toujours intéressé parce que c'est un peu ma vie aussi. Hein, le contraste par rapport au monde de on a parlé de ça un peu en coulisses déjà.
Le contraste, on va dire, celui des paillettes et de la représentation.
Disons
et
que ce sont
celui
des
de la troupe.
Ouais, pour le dire, si on devait les définir, moi je dirais que c'est des marginaux, ben, le vrai sens du terme, des outsiders.
C'est quoi le vrai sens du terme?
Le vrai sens du terme, c'est que le marginal, c'est pas forcément celui qui galère. Souvent, on associe marginal à dire ah bah oui, c'est un marginal, il est sous les ponts. Ou non, non, tu peux avoir de la réussite et être marginal. Par exemple, pour moi, Zingaro, c'est une aventure qui a été marginale. Toujours, et pourtant, on était une des plus grosses compagnies en France. On a fait le tour du monde, je sais pas combien de fois. On représentait la France, si on veut, quand on va jouer au Japon, au machin, d'accord. C'est mais on s'est construit complètement en dehors du milieu culturel, du milieu institutionnel,
du système,
exactement, du système et de l'intelligentsia qu'il y a autour, etc. Et ça a toujours été, moi, mon combat, quoi. C'est-à-dire, moi, je suis un peu un autodidacte, et là-dessus, je suis intraitable. C'est-à-dire que ce qui compte, c'est la manière, c'est non seulement ce que je fais, mais la manière, ce que j'accepte de ne pas faire, parce que pour moi, j'estime pas ça respectable par rapport à ma démarche, quoi. Et donc, c'est ça que j'appelle. Et d'ailleurs, dans le livre, j'ai fait apparaître comme ça dans le Chrome d'un jus de boxe. François Béranger, par exemple. Je sais pas si vous avez connu François Béranger. Bon, c'est l'exemple typique de personnages qui ont été assez connus à une époque pendant 5-6 ans, 10 dizaines d'années, on va dire, mais qui sont toujours restés des marginaux. Ils n'ont jamais voulu rentrer dans le système. À l'époque, le système de la variété du showbiz, c'était avoir une grande maison derrière. Il n'y avait pas Internet, tu pouvais pas jouer de la guitare tout seul dans ta chambre et te faire écouter par des millions de personnes. Ça n'existait pas. Il fallait que tu aies une équipe derrière, donc un major, tu vois. Et donc, tu avais des gens qui étaient construits. Tout était très construit à cette époque-là. Tu avais, par exemple, d'ailleurs, qui était un peu... Il aurait pu avoir cette destinée-là de Renaud. Tu avais Renaud qui était le chanteur de gauche, et puis tu avais Sardou qui était chanteur de droite, par exemple. Ils sont la même génération, hein. Souvent, on croit que c'est... Et ben, ils étaient construits derrière. C'est-à-dire que derrière, il y avait toute une équipe qui disait « Non, ça, c'est pas une chanson pour toi. Ça, c'est une chanson pour toi, pour ton public. » Bien sûr, ils donnaient un peu leur avis, mais pas tant que ça. Mmh. On leur a construit... Un public, un univers, quoi. Ils écrivaient pas eux-mêmes leurs chansons, quoi. Sardou, ils disaient, tiens, ça, c'est une chanson qui va être pour ton public, c'est bien. Ça, tu vois. Puis voilà. Et lui, on me luttait contre ça. Par exemple, la première fois, il passait jamais à la radio. Lui, par exemple, le premier 45 tours, pour ceux qui savent ce que c'est qu'un 45 tours, le premier 45 tours qu'il a fait, il a fait une chanson de 8 minutes. C'est-à-dire que tu devais écouter la première phase 4 minutes et pour avoir la suite, il fallait retourner le disque. Donc ça passait jamais à la radio, évidemment. Et c'était une espèce de provocation. Et l'autre personne que moi j'admirais beaucoup aussi à cette époque-là, c'est Colette Mani, par exemple, qui apparaît aussi dans le roman. Voilà. Pour moi, ça, c'est des marginaux. Et pourtant, qui avaient du succès quand même. Mais c'est des gens qui sont restés toute leur vie marginaux par rapport au système, quoi. Voilà. Et c'est.
Et Dali, qui apparaît dans le livre aussi. Et Dali. Un mot sur Dali avant de finir.
Oh bah Dali, c'est pas du tout un marginal, au contraire.
Non, ça, c'est sûr.
Quelqu'un qui s'est servi du système.
Non, mais pourquoi il est dans ce livre, Dali?
C'est une histoire vraie, ça. Hein, ça a eu lieu. Hein.
Très bien, on va s'arrêter
mais
là.
Mais
ça
s'est pas terminé comme je le raconte, mais ça a eu lieu. Voilà.
On va donc s'arrêter là pour laisser les lecteurs découvrir cette histoire. Merci beaucoup, voilà. Barthavas.
Merci à vous.